radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de la radio SBS professeur Farid El Asri. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous avons aussi Médine qui revient en Australie. Médine, vous êtes du Havre. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Noël.
Et Keira Mameri.
Bonjour Jean-Noël.
Réalisatrice du documentaire Dans Panique. Docteur Virginie André de Deakin University, installée à Melbourne depuis 10 ans.
Bonjour. Bonjour Jean-Noël.
Professeur, je vais commencer par vous. Vous êtes arrivé à Melbourne lundi et vous avez lancé cette série de conférences, de débats sur la question de la radicalisation, qui est une lutte qui est complexe, d'après ce que je comprends.
Oui, donc le premier défi, c'est de ne pas faire le déni de la complexité. Et donc il faut, me semble-t-il aujourd'hui, oser le défi de plaquer une série de grilles de lecture qui traduisent effectivement cette complexité-là. Donc il y a la nécessité aujourd'hui et l'urgence de développer des champs de recherche qui assument la polydisciplinarité et qui assument évidemment une série de grilles de lecture qui couvrent, l'ensemble du phénomène. Or, aujourd'hui, nous avons parfois des diagnostics qui mettent en avant des facettes, certaines facettes du phénomène. Et aujourd'hui, on a besoin de cette lecture globale pour comprendre cette complexité. Donc, effectivement, on a là un vrai défi.
Et donc, il n'y a pas de solution facile ?
Il n'y a pas de solution facile parce que nous sommes dans l'analyse de l'urgence. Nous sommes dans une réalité mouvante, dans les transformations qui sont assez rapides. Et donc nous sommes, au début de l'analyse du phénomène. Donc il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui nous permettent de recouper avec des expériences qui sont déjà inscrites dans l'histoire. Mais le phénomène auquel nous sommes aujourd'hui confrontés est relativement nouveau. Donc il nous faut de la rigueur, mais aussi beaucoup d'humilité par rapport à cette transformation-là et l'inclusion de toutes les compétences pour pouvoir comprendre à partir d'approches disciplinaires très variées.
Et pourquoi est-ce que les jeunes sont devenus plus vulnérables au djihadisme ?
La première problématique à laquelle on est confronté, c'est l'utilisation évidemment des termes, déjà le radicalisme, le djihadisme, et de penser, le temps présent dans son exceptionnalité. Il y a évidemment toujours eu des logiques de basculement, des voies ou des choix la pratique de la violence. Donc il y a des motivations qui sont différentes, mais nous avons des ingrédients qui peuvent être relativement les mêmes. Là, à quoi nous sommes confrontés, c'est évidemment un basculement relativement inédit du fait que nous avons de jeunes générations nées dans le contexte européen qui décident de basculer à partir d'un vernis du religieux vers une motivation qui est celle à laquelle on assiste aujourd'hui, notamment les départs vers la Syrie. Donc ça, c'est une configuration nouvelle, mais les sous-bassements, l'arrière-fond, les éléments sur lesquels les logiques de basculement s'opèrent, on trouve évidemment des similitudes, que ce soit à l'échelle globale, mais que ce soit également dans l'histoire. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, pour parler, évidemment, pour ne pas tourner autour de la question, lorsqu'on traite de la problématique, évidemment, du radicalisme religieux, notamment avec une dimension qui fait référence directement ou indirectement à la question de l'islam, ça nous amène à avoir une lecture globale du phénomène. Premièrement, nous sommes aujourd'hui dans une logique d'islam sorti de son héritage de civilisation. Nous sommes dans un contexte d'islam paramétré par l'identitaire. Donc, il y a déjà une problématique de fond. C'est une réflexion du religieux dans un contexte de crise. Et donc cette crise qui est cumulée avec d'autres crises, des crises générationnelles, des crises dans le rapport à la société dans laquelle un certain nombre de jeunes sont enracinés dans le paysage belge ou français, etc. Et donc qui pose évidemment des questions. Et lorsqu'il y a un cumul de questions avec un défaut de réponse, il y a évidemment aussi des discours de récupération, des communications qui sont très offensives pour pouvoir évidemment offrir une alternative à l'angoisse de ce que j'appelle l'hypermodernité, c'est-à-dire où tout est accéléré et aujourd'hui notamment aussi les solutions sont accélérées. Si vous ne trouvez pas de solution dans votre société, dans le référentiel religieux traditionnel, dans une issue en termes d'emploi ou de sécurité sociale ou autre, venez chez nous, nous avons la solution. C'est un peu raccourci de le dire comme ça, mais c'est l'efficacité d'une certaine forme de communication qui peut justifier des trajectoires.
Vous êtes de l'Université Saint-Louis de Belgique. Peut-être la question que j'aimerais vous poser, c'est de nous parler un petit peu de Molenbeek. avant le 22 mars et après le 22 mars ?
Alors, avant le 22 mars et après le 22 mars, la réalité de Molenbeek a basculé dans une hypermédiatisation. Sinon, avant et après, il n'y a pas de grand changement. Molenbeek est une des 19 communes de municipalité de la ville de Bruxelles. Et c'est une commune qui a une histoire assez profonde, je dirais, d'un point de vue sociologique, avec une présence de musulmans. Il y a beaucoup de citoyens belges de confession musulmane concentrés sur Bruxelles, entre 17 et 25%. Et une bonne partie, évidemment, est sur Molenbeek, mais ce n'est pas la seule commune. Ça, c'est une première donne. C'est une commune également qui connaît un certain nombre de difficultés, mais qui connaît aussi de formidables expériences tout à fait intéressantes, avec un maillage social et associatif assez intéressant, avec évidemment aussi des problématiques au niveau du décrochage scolaire, au niveau des alternatives d'emploi, etc. Donc ça, il y a une commune qui connaît évidemment des fragilités, et également, historiquement, avec une présence de quelques poches d'épiphénomènes qui peuvent traduire, être l'écho de voies de la radicalisation. Mais ce n'est pas la seule commune et ce n'est pas la seule réalité. Je veux dire, on ne peut pas créer l'exceptionnalité de Molenbeek ou de Bruxelles ou de la Belgique comme étant indirectement l'épicentre de la radicalisation. Nous avons d'autres exemples, et dans l'histoire de l'Europe, et en même temps dans, malheureusement, l'histoire récente, que ce soit les événements à Paris ou un peu plus... Donc qui nous montrent à quel point nous n'avons pas, je dirais, une géolocalisation de la radicalisation. Ce serait tellement simple.
Lors de la conférence de lundi dernier, vous aviez évoqué, je crois, le rôle de l'élite francophone depuis la fin des années 70. Oui. Il y avait cette marche pro-libyenne et l'émergence de la peur après.
Il y a un triple mode d'objectivation de la représentation de l'islam pour le cas de la Belgique, mais de manière générale en Europe, mais pour parler spécifiquement de la Belgique. La première des perceptions que nous avons eues de l'islam, c'est l'islam étranger, associé soit au dossier de la diplomatie, soit aux travailleurs étrangers qui sont arrivés dans ces migrations économiques de manière conjoncturelle et prêtes à partir. Donc c'est le travailleur étranger, donc l'islam étranger. Deuxième moment de basculement, ça a été le passage du dossier de l'islam à l'étranger vers celui de la migration et toute l'expérience du débat de l'intégration, etc., etc. Le troisième moment, c'est celui du basculement du dossier de l'immigration vers celui de la citoyenneté. Et malheureusement, ce dossier-là a été rattrapé par les enjeux de sécurité et notamment les événements du 11 septembre, etc., qui ont construit une sorte de climat en même temps d'une visibilité assumée de citoyens belges de confession musulmane qui disent leur appartenance ou la complexité de leur appartenance, tant aux religieux qu'à la société, mais en même temps avec une vraie défiance sur la remise en question, sur le doute, sur le point d'interrogation. Et il y a des polémiques médiatiques qui systématiquement vont rajouter la remise en question d'une part de la réussite dite de l'intégration entre guillemets et d'un autre côté sur le fait de la défiance par rapport à la société. Que ce soit des manifestations comme celles que vous mentionnez ou l'affaire de la burqa, etc. Enfin, de toute manière, tous les événements franco-français rattrapent la réalité de la Belgique. On dit souvent, lorsque la France s'enrhume, la Belgique éternue. C'est très vrai. Donc on a là un paradoxe tout à fait intéressant dans le contexte européen, je pense même dans le contexte occidental en général, c'est que plus aujourd'hui la réussite de l'ancrage définitif des musulmans dans le contexte européen et occidental en général est réussi, plus les enjeux de la défiance seront forts. C'est-à-dire plus la remise en question va être forte. Autrement dit, plus ça marche, moins ça marchera. Parce que l'ancrage définitif des musulmans dans le contexte occidental, quelque part, redéfinit une forme d'homogénéité culturelle. Donc si tu dis que tu es comme moi, ou moi, qui suis-je moi ? Ça remet en question l'identité collective. Et donc on assiste non pas à un repli identitaire d'une minorité, mais je pense qu'on assiste aujourd'hui à des formes de repli identitaire de la majorité. Et ça, non seulement les musulmans doivent tenir compte évidemment de cette dimension, je dirais presque psychologique, que leur présence entraîne sur la collectivité, mais il y a aussi un vrai travail de réconciliation et d'intégration pour sortir, je dirais, d'une représentation de la Belgique, de l'Europe ou de l'Occident qui serait culturellement figée et donc paramétré par le nostalgique, et qu'il faut aujourd'hui assumer cette nouvelle forme de richesse et cette transformation naturelle. Toutes les sociétés ont été faites finalement dans les reconfigurations, dans les reparamétrages, etc. Et ça me semble être un élément essentiel. C'est à ça aujourd'hui que nous sommes confrontés.
Professeur El Asri, votre travail avec, je crois, le European Muslim Research Association, pouvez-vous nous en parler ?
Nous avons lancé effectivement une plateforme de recherche qui est un réseau élargi d'experts sur la question de l'islam européen. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour réfléchir, il faut assumer l'intelligence collective. On ne peut pas réfléchir de manière isolée, individuelle, ou penser avoir le Graal pour résoudre évidemment un certain nombre de problématiques. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment de travailler avec des experts sur le terrain qui ont une connaissance fine des pulsations du réel, et donc pour comprendre le moment présent, pour pouvoir évidemment envisager une mise en perspective des enjeux et des réalités. On se rend compte que beaucoup de chercheurs, et notamment les enjeux de la recherche universitaire touchant entre autres à la question de l'islam, a souvent été paramétré aussi par l'environnement politique. Autrement dit, je disais tout à l'heure, quand on touche à la question migratoire et qu'on va avoir des spécialistes qui vont traiter de l'islam, souvent ils sont paramétrés par les enjeux politiques sur cette question-là. Donc il y a un traitement, je dirais, de l'islam à partir d'enjeux migratoires. Et donc c'est déjà intéressant d'avoir une réflexivité des chercheurs sur leur champ de recherche. Et de le travailler ensemble et de réfléchir à ceci ensemble. Le deuxième volet, c'est qu'on touche évidemment aussi à la dimension religieuse, parce que nous pensons que si l'islam n'est pas un problème, l'islam a aussi une réflexion de fond à avoir sur ces référentiels. Et je pense que là, nous avons aujourd'hui développé un réseau de théologiens à l'échelle européenne qui assument le fait de travailler ensemble, de pouvoir mettre en avant la diversité et de réfléchir à un islam prospectif. Aujourd'hui, nous sommes dans le défi de penser à l'islam 2050. Et parce que je pense que les conjonctures du moment, toutes les polémiques que nous vivons, notamment depuis 89 avec l'affaire du foulard en Belgique ou en France, jusqu'à aujourd'hui, nous paramètrent finalement à être des intellectuels qui sont systématiquement mobilisés pour commenter l'actualité. Et donc il y a un déficit de penser le moyen et le long terme. Et je pense qu'avec ce qu'on essaie de faire au niveau d'Emeril Network, c'est d'anticiper ça. C'est d'être présent, ne pas jouer la politique de la chaise vide, parce qu'il faut accompagner, faire évoluer progressivement et les mentalités dans la société, mais aussi les mentalités en intra. Et d'un autre côté, permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, et ça, c'est pas facile. On peut pas le faire en étant isolé. Raison pour laquelle il y a l'idée du think tank, d'un réseau de théologiens et d'un réseau de chercheurs.
Professeur El Asri, merci.
Merci à vous.
Et nous continuons l'interview. Cette fois, nous avons Keira Mameri. Bonjour, Keira.
Rebonjour.
Et Medine qui revient en Australie à nouveau. Bonjour.
Rebonjour.
Peut-être commencer par vous, Keira. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire Don't Panic qui est sorti il y a quelques années. Et c'est un focus sur 6 rappeurs à travers le monde.
Exactement. Il y a un rappeur sénégalais, un rappeur algérien, un rappeur américain, un rappeur français, un rappeur belge, un rappeur suédois et Farid en tant que regard extérieur sur la thématique du documentaire.
On revient sur votre parcours. Vous avez grandi avec le hip-hop et vous avez un master en cinéma.
J'ai un master en cinéma, oui. En réalisation.
Et vous avez grandi à Paris, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Racontez-nous cette jeunesse.
J'ai d'abord aimé le 7e art. J'ai aimé le cinéma, mais vraiment très très tôt. Mais à travers la télé. J'ai découvert le cinéma dans la salle très tard, pour le coup. Et je sais pas comment on s'explique. On tombe amoureux comme ça. Et j'ai découvert le cinéma avec les vieux films anglais, américains. En noir et blanc, et je me levais la nuit quand les films passaient à 11h minuit, et je regardais les films, et j'avais 10 ans. Et j'ai toujours eu cette passion-là. Et ça, c'est une rencontre complètement...
Et vos parents n'ont rien dit ?
Ben, ils ne savaient pas, surtout.
Parce qu'ils dormaient.
C'est ça. Mais voilà, donc ça vient de là. Après... comme on tombe plusieurs fois amoureux dans sa vie, je suis aussi tombée amoureuse du hip-hop, par le rap. Pour le coup, avec IAM, j'avais une dizaine d'années et donc voilà. Et donc j'avais découvert la mixtape de IAM à l'époque, qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait la mixtape avant de la planète Mars, Elle avait un nom, mais c'était...
Regarde, c'était un groupe jeune. Marseillais, c'est ça
c'est, oui, c'est un groupe ouais. Marseillais.
J'étais trop jeune.
T'étais trop jeune, mais bon, mais tu connais l'histoire du rap français, la honte. et donc voilà, donc très vite, tombée amoureuse du hip-hop, enfin, à travers le rap, et donc voilà. Et donc le documentaire, c'est aussi une combinaison des deux, en vérité.
Et vous êtes associé aussi à cette équipe de production qui s'appelle Les Derniers de la Classe.
Ouais.
C'est pour provoquer.
Alors, Dernier de la Classe, c'est une association qui a été montée par la monteuse de tous mes documentaires, qui est Hélène Amétis, avec son mari Régis. Et du coup, Dernier de la Classe, c'est plutôt leur collaboration à eux à la base. Et c'était pour rendre... ils voulaient mettre leur talent, leur expertise dans leur domaine respectif au service de ceux qui n'ont pas les moyens de monter des sites web, de faire du montage vidéo, des tournages et tout. Donc, Dernier de la Classe, ça démarre comme ça. Et étant une amie d'Hélène, je me suis ajoutée un peu plus tard dans l'association.
Et vous avez aussi d'autres projets à votre répertoire. Vous avez des courts-métrages. Je vois que vous avez réalisé un film qui s'appelle « À nos absents ».
Oui, un autre documentaire.
Un autre documentaire et « On s'accroche à nos rêves ».
Exactement.
Vous pouvez nous en parler ?
Alors, « À nos absents », c'est mon premier vrai documentaire. J'avais fait des reportages un petit peu avant sur le graffiti, mais le vrai documentaire, c'est « À nos absents ». Alors, à nos absences, c'est vite fait, c'est la transcendance de la mort à travers les textes de rap français. Donc, c'est comment les rappeurs, donc français pour le coup, parlent de la mort à travers leurs textes. C'est-à-dire, du moment où ils perdent leur ami proche, au moment de l'écrire, de l'enregistrer en studio, de le faire sur scène ou pas, et comment ils le vivent s'ils le font sur scène. Et donc, voilà, donc c'est pareil, c'était, il y avait 7-8 rappeurs. C'est un film qui date de 2000-2001. Et c'était une période de 97 à 2000. Il y avait une période, que ce soit aux États-Unis ou en France, où il y avait énormément de morts. Et c'était une période où justement les rappeurs racontaient ça. Et je voulais mettre en avant le fait que les rappeurs, alors qu'ils avaient une image de bad boy, insensible et tout ça, avaient non seulement des failles, mais n'avaient pas peur de les exprimer et de les mettre en avant. Donc, à nos absences, ça partait de ça. Et quelques années plus tard, on s'accroche à nos rêves. Et là, pour le coup, c'est un documentaire qui parle de la place de la femme à travers les 4 branches principales du hip-hop, donc qui est le DJing, le rap, la danse et le graffiti. Et du coup, c'est 4 femmes qui se racontent à travers 10 ans d'expérience dans le hip-hop.
Et vous êtes aussi impliquée dans ce projet pour promouvoir la place des artistes femmes dans le hip-hop, c'est ça ?
À travers ce documentaire, oui. Elles se défendent, il n'y a rien à défendre, cela dit, mais elles font leur place tout naturellement et tout simplement et sereinement, j'ai envie de dire.
Et vos projets, Kaira ?
Alors, le documentaire que je suis en train de finir, là, j'espère pour bientôt, c'est Nos Plumes, qui est un documentaire qui fait le portrait, pareil, de 6 écrivains français, des romanciers, des bédéistes. Et ça fait le portrait un petit peu de la jeune génération littéraire française. Et du coup, ils racontent un petit peu leur parcours, tout en n'étant pas issu du sérail du monde de la littérature. Et du coup, qu'est-ce que c'est être écrivain aujourd'hui quand on n'appartient pas à cette famille-là ?
Kaira Mamery, merci à vous.
Ben, je vous en prie, merci à vous.
Je viens vers vous, Médine. Rebonjour et re-bienvenue en Australie.
Rebonjour, Jean-Noël. Merci.
La dernière fois, je crois qu'on n'a pas parlé de votre parcours musical. Est-ce que peut-être on peut revenir là-dessus ?
Bien sûr.
Votre parcours comme rappeur ?
J'ai commencé il y a maintenant une vingtaine d'années, de façon très naturelle. J'ai commencé par être un auditeur, un gros consommateur de rap français. Je suis arrivé dans cette musique grâce au rap français. C'est un peu atypique, beaucoup sont arrivés grâce au rap des US. Moi, c'est vraiment le rap français. Ce qui me séduisait, c'était l'écriture et le sens des mots, le sens qui était donné. Et bien sûr, comme le rap a la prétention d'être l'art des pauvres, eh bien, c'est relativement simple de de s'exercer et de s'y mettre et de devenir un acteur à part entière là, de cette musique. Et donc, je me suis mis à écrire. Ce qui est un peu moins facile, c'est l'organisation derrière, à savoir se constituer en groupe, en collectif, se produire sa propre musique, avoir les moyens pour investir dans du matériel, ce genre de choses. C'était pas prévu au départ. Simplement, on a juste envie d'être le meilleur avec les mots de la langue française et d'exceller dans ce domaine, impressionner même les copains. Au début, c'est que ça. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas vraiment d'ambition. On répond à de la testostérone, tout simplement, de vouloir s'affirmer avec les mots et d'impressionner les autres. Et puis après, bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans une carrière ou dans un groupe, eh bien, il y a des ambitions qui viennent s'ajouter à ça, des expériences qui viennent s'ajouter à ça, et le texte devient soit encore plus divertissant, parce que l'expérience fait qu'on a simplement envie de s'éclater et de continuer à évoquer sa vie de jeune, ou alors se politise un peu plus parce qu'on ouvre les yeux, on met en rapport des choses et on se rend compte qu'il y a des expériences de vie qui sont difficiles à certains endroits. Je parle bien sûr des quartiers populaires, et qu'on met en évidence une culture qui vient de ces quartiers populaires à travers justement le regard de ces phénomènes sociaux que l'on peut vivre dans un quartier. Donc moi, j'ai choisi cette deuxième voie naturellement parce que j'habitais dans ces quartiers-là, que j'ai vécu mon expérience de jeune de banlieue, issu de l'immigration. Et en plus de ça, j'avais une autre tare, malheureusement, je ne sais pas si on peut appeler ça une tare, c'est d'être musulman. Et être musulman au moment des attentats du 11 septembre, eh bien, c'est être en proie à des représentations, à des fantasmes. Et donc, tout ça cumulé fait que quand on a une activité artistique, elle ne peut faire semblant... ou alors elle ne peut tout simplement ignorer qu'il y a des enjeux qui se jouent dans la société civile et que être un artiste, c'est aussi avoir un rôle dans ce débat-là.
Comment, disons, définiriez-vous votre mission comme vie d'artiste ?
J'ai un mot que j'ai utilisé sur un dernier album qui s'appelle, qui s'intitule La Démineur. Je crois que c'est vraiment mon objectif dans cette musique. Et plus largement sur le terrain culturel, à savoir tenter de désamorcer des débats qui sont des débats qui nous polluent en fait en réalité et qui n'ont de cesse que d'alimenter des fantasmes, des représentations. Et mon rôle à moi, c'est de mettre les mains là où personne veut les mettre et de le dénoncer avec la façon dont le rap dénonce les choses, donc avec beaucoup de virulence là dans le propos. J'en assume pleinement les conséquences parce que ça correspond à des codes, ça correspond à une gestuelle, et je ne veux pas pour me faire entendre ou pour faire entendre mon message travestir le moyen avec lequel je dois faire passer là ce message. On doit accepter la façon dont c'est dit et le contenu là de ce message, parce que nous sommes des êtres humains avec un formidable appareil qu'on appelle l'intelligence et qu'on doit pouvoir comprendre les différentes couches d'explication d'un texte et puis les représentations, qu'on a le devoir d'aller plus loin dans un jugement. Et c'est vrai que les morceaux de rap sont pour la plupart provoquant, et il faut savoir aller un peu plus loin. Donc mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de déminer, de faire croire, de faire penser que éventuellement en apparence, eh bien, il y a des choses qui sont très gênantes, très dérangeantes, mais qu'au final, fondamentalement, il y a une volonté de dialogue, il y a une volonté d'apporter de vrais arguments dans de vrais débats de société.
Et comment ça se passe pour vous dans le monde musical francophone ? Je crois que vous avez quelque chose comme 7 albums déjà à votre répertoire.
Je ne les compte plus vraiment. Ouais. En fait, en tant qu'album, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et après, j'ai sorti d'autres disques en parallèle qui ne sont pas considérés comme albums en fonction du nombre de tracks qu'il y a à l'intérieur. Et comment je suis perçu dans le rap francophone ou dans la musique francophone ?
Musique francophone
Là, je suis agréablement surpris que vous parliez de musique déjà quand vous parlez de rap, parce que en France, par exemple, ça n'est pas considéré comme étant de la musique à part entière. Il n'y a que les chiffres de vente qui fait que on rentre dans la grande famille de la musique française, parce que on aurait la prétention de relancer l'industrie du disque, qui a de gros vendeurs aujourd'hui là dans le rap. Par contre, le son, ce que raconte le rap, et surtout par qui est fait le rap aujourd'hui, n'est pas inclus dans l'ensemble de la société, enfin, ou plutôt de la musique française. Et ce qui m'interpelle, moi, c'est que le traitement qui est fait à cette musique, culturellement, c'est à quelque chose près le même traitement qui est fait à une partie de la population française. Donc là, je fais des paraboles, je vais un peu sur le terrain social, mais c'est vraiment une analyse qui, au fur et à mesure, se conforte. C'est qu'on voit que le rap hérisse des poils, le rap, parce que, par définition, c'est une musique qui est laconique, c'est une musique qui dénonce, et qui ne dénonce pas forcément des phénomènes sociaux, mais qui est dans la transgression, dans la provocation pour faire évoluer des lignes, que ce soit des lignes du simple divertissement, de l'entertainement, même du marketing. Eh bien, il y a aussi cette ambition de vouloir faire avancer d'autres lignes sur le plan des mentalités, sur le plan des avancées sociaux. Et donc, ça n'est pas évident aujourd'hui d'avoir cette ambition-là dans le champ de la musique française, qui déjà, au préalable, ne reconnaît pas le rap comme étant une musique à part entière.
Medine, merci à vous.
Merci Jean-Noël.
Je viens vers vous, docteur Virginie André, pour nous parler un petit peu de cette semaine qui se déroule ici à Melbourne, organisée par Deakin University. Il y a eu le lancement lundi soir d'une série de débats, de conférences.
Je pense que jusqu'à présent, cela se passe très bien. Donc nous avons commencé avec la public lecture du professeur El Azri ce lundi, qui a été très très bien reçue par le public. Et à notre grande surprise et grande joie, je pense, donc le professeur El Azri et moi avons pu constater qu'il y avait un certain nombre de Belges qui étaient présents dans la salle. Et la Belgique, on en parle très peu ici en Australie. Alors la Belgique est connue ici en Australie pour son chocolat, bien évidemment.
Pour Tintin et Milou.
Pour Tintin et Milou et pour aussi sa bière, j'imagine. Et malheureusement, depuis quelques semaines, depuis les attentats de Bruxelles, nous sommes maintenant connus comme l'épicentre du djihadisme en Europe. Donc, l'initiative, en fait, de cette première public lecture de lundi était de pouvoir finalement, je vais emprunter un mot de Medine, c'était un peu de déminer et de casser un petit peu tous ces représentations qu'on a pu entendre, mais aussi voir à la télé au niveau de Molenbeek et de la Belgique. Donc, je pense que là, c'était très important. Et le fait que nous ayons des Belges qui soient présents aussi, quelque part, ça fait un peu chaud au cœur. L'ambassadeur de Belgique, donc son Excellence Jean-Luc Baudson, était également présent. C'est lui qui a ouvert la lecture lundi. Et je pense qu'il y a aussi, je l'espère du moins, fait passer un message très positif. Et le message qui se répète ce lundi, mais aussi de la conférence du mois de février, à laquelle Medine a également participé, c'est que c'est un phénomène complexe, que les raccourcis sont dangereux et sont à éviter. Et que finalement, je pense que cette semaine est aussi une réflexion de ce travail qui est important, où pour pouvoir aller de l'avant aujourd'hui et traiter de ces questions qui sont complexes et urgentes, c'est de pouvoir de créer des passerelles, des dialogues entre différents acteurs, que ce soit des acteurs sociaux, des artistes comme Kera, comme Medine, et les académiques comme le professeur El Azri et moi-même, et aussi les praticiens, parce qu'il ne faut surtout pas oublier les éducateurs, par exemple, et les assistants sociaux, mais aussi les officiers de police qui sont sur le terrain au quotidien. Et Donc voilà. Donc ce mélange et ce dialogue entre différents acteurs est vraiment très important. Et c'est ce qui nous permettra d'aller de l'avant.
La série de débats, de conférences, d'ateliers se poursuit cette semaine à Melbourne.
Oui, tout à fait. Alors, donc nous avons eu cette première public lecture ce lundi. Nous avons un premier workshop avec des jeunes.
Jeudi soir, oui.
Avec des jeunes gens de la municipalité de Darebin. Donc, ce sont des ateliers qui se font en partenariat avec la ville de Darebin. Et là, on va découvrir un petit peu la musique de Médine au travers de ses clips, au travers de ses textes, des textes qui sont, je pense, très, très, très forts et aussi porteurs de beaucoup de sens. Et à mon avis, qui va beaucoup parler quelque part aux jeunes. Parce que je pense que les difficultés qui sont rencontrées en Belgique et en France sont aussi ici rencontrées en Australie. Et donc au travers de l'atelier, on espère pouvoir libérer la parole et créer un dialogue. Ensuite, nous avons la projection et le grand plaisir d'accueillir Kera Mameri ce vendredi. Et le documentaire est très, très, à mon sens, très important parce qu'il évoque la musique, bien sûr, l'islam, mais aussi d'autres thématiques beaucoup plus larges et qui rejoignent un petit peu l'esprit des ateliers. Et finalement, la projection sera suivie d'un débat. Donc j'invite vos auditeurs à nous rejoindre ce vendredi. Un débat avec Kera, Médine, le professeur El Azri et un de mes collègues du Conseil islamique du Vitoria, de la branche jeunesse et moi-même, avec le public. Donc ça permettra au public d'avoir vraiment une discussion ce vendredi. Voilà. Et samedi, donc pour terminer, nous avons là une journée, donc c'est un atelier d'écriture de chansons qui sera dirigé en partie par Médine avec notre soutien. Et là, ce sera de permettre de faire un suivi de ce qui aura été déjà discuté en amont ce jeudi, donc demain, et de développer avec les jeunes une chanson sur ces différentes thématiques. Voilà, un travail très important, je pense.
On vous souhaite les meilleurs vœux et bonne continuation.
Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.